Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le marché noir est lié à un état de pénurie. Quand il y a un certain nombre de matières premières qui manquent, elles ne manquent pas pour tout le monde et ceux qui ont des moyens financiers vont pouvoir se procurer tel ou tel produit.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Le marché noir est un terme qui recouvre l'ensemble des transactions plus ou moins licites qui avaient lieu sous l'occupation.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On parle de marché noir lorsque les transactions financières sont vraiment très importantes.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
C'est le plus grand trafiquant de l'occupation et l'homme le plus riche de France à la Libération. Il a aussi favorisé le marché noir dont on vient d'entendre la mise en onde, qui est Michel Skolnikov. C'est le journaliste et historien Pierre Abramovici qui nous raconte son destin. Bonsoir.
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 Vous avez écrit sur ce personnage, Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation. C'est aux éditions Nouveau Monde. Un livre qui a une drôle de carrière puisqu'il est une pièce à conviction dans une grosse affaire judiciaire.
Bah oui, le hasard étonnant veut que l'affaire Skolnikov soit la plus vieille affaire judiciaire de France, de l'histoire de France. Et il se trouve qu'en allant aux archives, j'ai fait la preuve, en quelque sorte, qu'il s'est passé quelque chose sur l'hôtel Martinez, qui est un des éléments, celui de Cannes, qui est un des éléments de l'affaire.
Et ben on va commencer par raconter cette histoire, pour cerner un peu ce personnage Skolnikov. C'est quoi son rôle dans l'histoire du Martinez?
Il n'a pas de rôle, en vérité, c'est bien le problème. Si vous voulez, à la Libération, Skolnikov fait l'objet de ce qu'on appelle un séquestre judiciaire, voilà. Et dans les séquestres judiciaires, vous avez ce qu'on appelle des solidaires, c'est-à-dire des gens qui sont complices en quelque sorte.
Voilà, attendez, déjà un séquestre judiciaire, c'est quoi ?
Exactement ce que ça veut dire. On séquestre, on prend
Des biens.
Pour le compte de la justice, des biens.
Mmh.
Et donc ce séquestre judiciaire, c'est une toute petite somme, c'est 2 milliards de l'époque. Ce qui représente, quand on essaye de réfléchir, que le salaire d'un cadre supérieur, directeur de banque à l'époque, c'est 14 000 francs par an. Ça veut dire que M. Skolnikov possédait l'équivalent de 14 000 francs par jour. Voilà.
D'accord.
On est sur un tout autre registre.
Ouais. C'est en bien, en palace,
en bien immobilier,
en villa, en château,
villa, en tout ce que vous voulez. Et par exemple, pour parler du quartier où nous sommes, puisque nous y sommes, vous êtes ici au cœur de l'Empire Skolnikov, là où nous sommes.
Pas loin de l'avenue Montaigne, nous sommes rue Bayard.
Ça démarre à la place de l'Alma, ça va jusqu'aux Champs-Élysées, tout le long de l'avenue Montaigne. Ça remonte le long des Champs-Élysées jusqu'à la rue dont j'ai oublié le nom, qui nous ramène ensuite de Franklin Roosevelt à l'avenue Georges V et de l'avenue Georges V jusqu'à l'Alma.
Donc en gros, il possède, Skolnikov, une cinquantaine d'immeubles aux alentours des Champs-Élysées. Et tout ça s'est mis sous séquestre à la Libération.
Exactement. Le but, si vous voulez, c'est qu'il
a
acheté...
Et il y a l'hôtel Martinez, non, aussi.
Ah, pas du tout. Ça, c'est pour les immeubles normaux de rapport. Et puis par ailleurs, il a fait partie d'un plan, dont on parlera après, qui est un plan hôtelier, où il a acheté tous les hôtels de luxe de France, les plus importants. Et le Martinez est un des hôtels de luxe à Cannes. Il n'a pas le retentissement qu'il a aujourd'hui, évidemment, mais c'est un hôtel très important déjà.
Et qui appartient pour tout ou partie à Skolnikov ?
Pas du tout. Il appartient pas du tout à Skolnikov.
Alors quel lien il a avec la...
Mais précisément, c'est l'objet de ce que j'ai révélé dans mon bouquin, le hasard. En fait, à la Libération, on séquestre Martinez, monsieur Emmanuel Martinez, propriétaire de l'hôtel, en disant voilà, vous êtes complice de Skolnikov parce que vous êtes en affaire avec lui. Vous lui avez vendu votre hôtel. Il répond, je ne lui ai pas vendu mon hôtel, c'est pas vrai. Il est condamné, recondamné, re-recondamné, il y a je ne sais pas combien de procédures judiciaires. Il est blanchi en 1966, il dit, je vais rentrer dans mon hôtel. Et on lui dit, non, il n'est pas à vous l'hôtel, puisqu'il a été acheté par Skolnikov. Ça marche toujours pas.
C'est ubuesque.
Oui. Et donc, ce brave homme, en vérité, ce que j'ai trouvé dans les documents, c'est qu'en fait, il a reçu une somme très très élevée, c'est-à-dire à l'époque, je crois, 19 millions de francs de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose en vérité, pour un prêt qui lui permettait de tenir pendant 7 mois. Au bout de 7 mois, il a rendu l'argent à Skolnikov. Il n'y avait plus aucun lien avec Skolnikov, plus rien.
D'accord.
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque, sur la Côte d'Azur, les Italiens sont très importants. Martinez est italien. La Libération, on dit, il est coupable. C'est lui, c'est sa faute, et on met tout sur son dos. Et donc, dans les années récentes, j'ai prouvé juste qu'il était innocent.
Alors, on va du coup en profiter pour raconter toutes les autres affaires dans lesquelles Skolnikov a effectivement joué un rôle. Il faut le présenter. Qui est-il ? Quelles sont ses origines, tiens, d'ailleurs, pour commencer ?
Alors ça aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut voir qu'on se base sur un inconnu dont personne n'a jamais entendu parler, à quelques lignes près dans quelques ouvrages, et encore. Le personnage s'appuie sur des rapports de police, avec tout ce qu'on peut imaginer de la qualité des rapports de police. Et en gros, il y a deux pistes, toujours. La première, il vient d'un milieu bourgeois, quelque part du côté de la Lettonie. Il est juif, mais pas sûr, peut-être pas, il faut voir. Alors en vérité, il appartient à un groupe religieux spécifique qui a été en quelque sorte déjudaïsé à la fin du 19e siècle. Pour les Français, pendant la guerre, il est juif. Pour les Allemands, il ne l'est pas.
Ça les arrange, les Allemands, pratique, parce qu'ils font du business avec lui.
Bah, comme dirait Goebbels, c'est moi qui choisis qui est juif et qui ne l'est pas. D'accord. Et donc, notre ami Skolnikov, première hypothèse de la police française, dans les années 40, il part, il est, disons, moyennement fortuné, issu d'un milieu bourgeois, et il fait des affaires financières, voire de la banque, jusqu'en Pologne, jusqu'à Dantzig, qui à l'époque est un port franc allemand. Et donc, il travaille avec les Allemands déjà à Dantzig. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est un marchand de tapis qui, en gros, vend des textiles trois fois rien. Alors, on invente qu'il est, en quelque sorte, fournisseur des armées du Tsar. Ça veut rigoureusement rien dire. C'est, en gros, il fournit des tissus vaguement à l'armée si on les lui commande. Il n'est pas plus fournisseur que vous et moi. Mmh. Mais bon. Et donc, il est supposé avoir été escroc en Belgique, parce qu'apparemment, il descend, en quelque sorte, de la Russie vers la Belgique. C'est un Russe blanc. Et ce Russe blanc qui arrive en France, en fait, précédé, en tout cas, d'une mauvaise réputation, quoi qu'il en soit, il est escroc, que ce soit à Dantzig ou à Bruxelles. Il a été condamné deux fois, c'est une certitude en France, pour escroquerie. C'est un petit arnaqueur. Et en 1939, en gros, c'est un marchand de tapis.
Alors, c'est un marchand de tapis qui aime travailler en famille. Ça, c'est une certitude?
Ah ouais, c'est un type formidable. Il adore ses parents, sa famille, ses enfants, tout le monde. Alors, il a
l'ironie, là.
Ouais, il a une femme, il la quitte. Elle a un amant. Il paye la femme et l'amant, aucun problème. Toute la guerre.
Malin.
Ouais. Il a une maîtresse, bah évidemment, il paye la maîtresse. Il a une mère et un père, comme tout le monde, et bah il paye le père et la mère. Il leur offre fastueusement des tas de biens. Il a une nièce, puisqu'il n'a pas d'enfant, c'est comme sa fille. Il la finance, etc. C'est sa famille qui va être le centre de l'ensemble de son activité.
Une sorte de mafia, en quelque sorte.
Pas du tout. Non, de simples profiteurs familiaux.
D'accord, il ne les paye pas pour qu'eux lui rendent des services en retour. Vous le décrivez dans votre livre, Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation chez Nouveau Monde, comme un flibustier de l'argent.
Ah ouais. Alors, je ne dirais pas à qui il pourrait ressembler pour éviter les procès en diffamation, mais on peut imaginer à qui il peut ressembler dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, cet homme, il est sans foi ni loi, exactement. Au fond, il se fout éperdument de qui il a en face de lui. Entre 39 et 40, il fait des affaires avec le gouvernement français. Puis après, il fait des affaires avec les Allemands. Et s'il l'avait pu, il a commencé à négocier. Il aurait fait des affaires après la guerre. Il n'a aucune espèce d'opinion politique.
Alors, comment cet apatride va-t-il devenir l'homme le plus riche de France à la fin de la Seconde Guerre mondiale? On continue de vous raconter cet incroyable destin à tous les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et suivez les conseils de Diane qui attend vos réactions au 3210 sur RTL.fr. On vous raconte l'histoire de Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, avec le journaliste et historien Pierre Abramovici. On a l'impression que vous avez une forme de... Alors, je ne vais pas dire de tendresse, mais pas loin pour ce personnage. Parce que c'est à la fois un voyou et en même temps, il y a quoi?
Il y a du panache.
Alors, n'exagérons rien pour la tendresse.
Oui, c'est pour ça.
Faut pas exagérer.
Au moment où le mot est venu, je me suis dit c'est un peu beaucoup.
Mais il a une particularité, contrairement à tous ses homologues, il en a d'autres, c'est qu'il n'a pas de sang sur les mains, du tout. Il n'est pas la Gestapo française où on torture dans sa cave. Mmh. Il est rien. Il est absolument rien. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, à part de faire de l'argent, c'est qu'il fait de l'argent avec les mauvais Allemands. C'est-à-dire qu'en gros, ils font tous de l'argent avec les Allemands. On en dira un mot après, mais lui, il fait de l'argent en plus avec les SS, qui est franchement pas terrible. Mais en vérité, ce n'est que pour faire de l'argent, pas autre chose.
Quand est-ce que son ascension financière commence vraiment?
Ah, tout de suite.
À quelle époque?
Tout de suite.
Donc, Première Guerre mondiale, entre deux guerres,
c'est vraiment en 39. C'est-à-dire
d'accord, au début de la guerre.
Avant, je vous ai dit, c'est un escroc, tout banal. En gros, il habite le sentier, il a une petite boîte, il fournit pas grand-chose à personne, enfin voilà.
Donc, comment il met le doigt dedans?
En gros, il commence par les grands magasins dans les années 39-40, où en fait, ils ont besoin d'un fournisseur, j'imagine. En tout cas, ils lui font des commandes, ils lui passent des commandes, je pense, de tissus en gros, pour autant qu'on puisse savoir. Simplement, quand les Allemands arrivent, ils ont besoin... C'est très important pour eux de textile, parce que le textile sert à des tas de trucs. Ça sert aux vêtements, ça sert aux uniformes, ça sert à des tas de choses. Enfin, il y a plein d'utilisations, donc ils ont besoin de fournisseurs de textile. Et le problème, c'est que il faut bien comprendre comment fonctionnent les Allemands, et c'est assez important dans cette histoire. Les Allemands, dans l'idée qu'on a, on l'a appris ça à l'école, ils rentrent dans une maison, ils donnent des coups de pied dans la porte et ils vous prennent votre appartement et vos biens. En vérité, ça ne se passe pas du tout comme ça, pour l'essentiel. Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé, mais pour l'essentiel. En substance, ils achètent. Alors comment ils achètent? Le vol se passe à l'étage au-dessus. Le gouvernement français a une taxe à payer de 400 millions de francs par jour pour l'entretien de l'armée allemande. Ça représente plusieurs millions de soldats, s'il y en avait eu plusieurs millions.
C'est ce qu'on appelait la taxe d'occupation ?
Exactement. Cette taxe, elle est entre les mains d'un gouverneur allemand qui a été nommé à la Banque de France. Mmh. En fait, c'est un jeu d'écriture. Donc le gouvernement allemand fournit des bons au trésor, des bons porteurs, ce genre de trucs, à raison d'à peu près 50 à 100 millions jour. Et avec ça, donc c'est de l'argent volé à la collectivité française, il dit acheter à n'importe quel prix. Et n'importe quel prix, ça veut dire généralement 10 fois la somme. En d'autres termes, vous avez les Allemands qui achètent, des intermédiaires comme Skolnikov, il y en a plusieurs, et puis vous avez des vendeurs. Et les vendeurs, ce sont des Français qui vendent en pleine connaissance de cause pour des prix très élevés, tout un tas de biens. Il y aura à la libération 135 000 dossiers de profits illicites avec les Allemands.
Bah alors là, avec Skolnikov, on n'est plus du tout dans le textile, il est passé à autre chose.
On commence par le textile, ça dure 2 ans.
Et c'est-à-dire qu'il va vendre du textile à la marine de guerre allemande, par exemple ?
Il va d'abord chercher et fournir du textile. C'est-à-dire que son boulot, ça consiste à chercher où se trouve le textile, les usines, faire fabriquer si nécessaire, les stocks, etc. Fournir à la marine de guerre, qui est son premier client, ce dont ils ont besoin. Et en contrepartie, touche un pourcentage. Jusqu'en 1942, c'est son rôle.
Pierre Amaroussi, vous nous avez dit tout à l'heure que ce Skolnikov a fait commerce avec les mauvais Allemands, c'est-à-dire les SS, qui l'amène à rencontrer, à faire commerce avec les SS. Comment ça se passe, ce premier contact ?
Je parlais de sa famille, il y a donc sa maîtresse. Sa maîtresse est allemande, elle s'appelle Hélène Sanson. Et cette dame Sanson, visiblement, a des liens avec les mauvaises personnes, puisqu'en fait, elle a réussi à s'introduire dans le milieu du commerce allemand en 1940, comme réfugiée, mais elle n'est pas juive, enfin peu importe. Mais toujours est-il que cette femme, visiblement, a des liens avec les bonnes personnes. Elle l'introduit d'abord à la Kriegsmarine, c'est elle qui l'introduit, puis c'est elle ensuite qui l'introduit dans les milieux SS. Les SS ont des besoins qui sont différents. Ils ont des besoins en toutes sortes de produits, notamment aussi en textile, donc il va fournir en textile, c'est son boulot, hein, c'est un spécialiste. Et puis il se trouve qu'au même moment, alors personne ne sait très bien qui, si ce sont les SS, si c'est le gouvernement allemand en tant que tel, le ministère des Finances, Göring, on ne sait pas. Il y a un plan, ce plan a été mis en place, l'idée donc c'est d'acheter tous les biens hôteliers de luxe pour faire une sorte de chaîne hôtelière qui irait en gros de Dunkerque à Tamanrasset, si j'ose dire, c'est-à-dire en gros de la Manche à la Méditerranée incluse, en comptant là-dedans la principauté de Monaco. Et donc Skolnikov va acheter tout ce qui fait 4 étoiles luxe et plus.
Et donc l'objectif, c'est d'acheter tout ça. Pourquoi ? Pour penser à l'après, à l'après-guerre ? Les Allemands s'organisent déjà pour...
Absolument.
Pourquoi ? Pour revendre ? Pour vivre dans le pays ?
Pour faire un groupe hôtelier. Les Allemands pillent le pays à raison donc de ces sommes considérables. Et en contrepartie, ils achètent des biens qui sont des biens qu'on n'exporte pas. C'est-à-dire qu'ils achètent des hôtels, des maisons, des immeubles.
Et Skolnikov, c'est un intermédiaire dans l'histoire. Il prend au passage, c'est comme qu'il s'enrichit.
C'est comme ça qu'il prend au passage, qu'il s'enrichit. Et alors, à un moment donné, on a une impossibilité, on ne sait pas très bien. C'est-à-dire que les sommes qu'il manie sont colossales. C'est-à-dire que ça, ce qu'on a trouvé à la Libération, c'est bien, comment dire, qu'on ne peut pas enlever. Un immeuble, ça ne s'en va pas. Mais en réalité, quand on regarde l'ensemble des transactions, on est sur plusieurs dizaines de milliards de l'époque. C'est des sommes colossales. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Et donc, cet homme prend là-dessus son pourcentage, on ne sait pas très bien lequel. Il achète des immeubles, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, est-ce que c'est seulement pour lui ? Est-ce que c'est pour les Allemands ? Est-ce que c'est pour les deux ? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est pour lui. Et il utilise une combine qui est une combine juridique. Il crée 5 sociétés bidons à Monaco, pays où on crée des holdings à l'époque pendant la guerre. Il crée donc ces holdings. Ces holdings monégasques achètent tous ses biens pour son compte sur l'ensemble du territoire français en principauté.
Mais il travaille seul ou il finit par devenir, je ne sais pas, une espèce de mafieux avec des hommes de paille
Mafieux n'est pas le mot, c'est-à-dire que ce sont des hommes de paille, mais ce ne sont pas des hommes de main. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas de
sens. Sur la violence, il n'y a pas de violence.
Du tout. Ce sont des acheteurs. Alors vous avez des acheteurs au sens légal, des notaires, des agents immobiliers, des intermédiaires financiers, des gens parfaitement légaux qui ont pignon sur rue et qui d'ailleurs pour l'essentiel n'auront pas beaucoup de soucis à la Libération.
Ils savent ce qu'ils font.
Oh, j'imagine qu'ils doivent le savoir.
Ah, quand même.
Je pense. Oui, ils savent ce qu'ils font. Ils achètent pour le compte. Alors après, ils inventent. Il est juif, donc on a protégé un juif, vous imaginez. C'est parce qu'il ne pouvait pas faire les transactions tout seul. En vérité, ils savent très bien pour qui. Pour l'excellente raison qu'il se balade constamment avec son ami SS qui le dirige.
D'accord.
Il est constamment avec lui, tout le temps. Donc, j'imagine que le SS ne doit pas passer totalement inaperçu.
Il va grimper les échelons, d'une certaine façon, Skolnikov, c'est-à-dire être en contact avec des dignitaires nazis.
Alors là aussi, c'est un petit peu compliqué. Skolnikov, encore une fois, je vous l'ai dit, est un inconnu à la Libération parce que toute la question est de savoir s'il est mort ou pas mort, c'est la fin de l'histoire.
Mais pas la raconter tout de suite.
Bien sûr que non, mais la question c'est que il n'a pas eu de procès, du tout. Donc, de procès, j'entends public. Donc, le seul procès qui existe, c'est celui d'un certain Johannovici, qui va être le grand trafiquant de la Seconde Guerre, comme tel. Il y a eu des films, des fictions, des bouquins, etc.
Bande dessinée aussi.
De toutes sortes. Excellent.
Il était une fois la France.
Absolument. L'une des remarquables de ces dernières années. Et donc, Johannovici apparaît comme un type flamboyant, machin. Donc, tout le monde joue là-dessus. Skolnikov, il n'existe pas. Or, le modèle Johannovici, c'est je fais des soirées chez Maxime, je sors avec des grosses voitures, j'ai des bonnes femmes avec plein de bijoux, etc. Et donc, on invente les auteurs, Johanovici, inventent pour Skolnikov marginalement, il en parle de temps en temps, en disant, en substance, il est blond à rien, grand avec des yeux bleus, et en plus, il a plein de trucs, genre Maxime, les machins, etc. Or, c'est exactement l'inverse. Skolnikov, d'abord, il est petit et brun, et ensuite, surtout, il ne fait rien publiquement. Il reçoit chez lui des dignitaires, des gens importants de l'appareil de la, je dirais, de l'économie allemande en France. Il fait des affaires, personne ne sait avec qui il est vraiment, excepté dans les documents de police après-guerre. Et en substance, on ne le voit pas, c'est exactement le contraire.
Eh ben, on va continuer de dévoiler la vie de Michael Skolnikov, c'est dans un instant, les curieux.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est l'histoire d'un homme d'affaires, d'un trafiquant et d'un des plus grands collaborateurs économiques dans la France occupée de la Deuxième Guerre mondiale. On vous raconte l'histoire de Michael Skolnikov avec l'historien et journaliste Pierre Abramovici. Vous publiez Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, et c'est aux éditions Nouveau Monde. Alors écrire sur lui, c'est quand même pas simple, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre, et vous nous l'avez dit en début d'interview, il y a souvent deux pistes, deux chemins, il faut le choisir. Lequel ?
Alors, il faut commencer par le début. Rien n'était accessible, rien. Absolument rien. C'est-à-dire que quand vous cherchez... En fait, tout a commencé au tout départ, il y a très longtemps, par un bouquin sur les trafics sous l'occupation qui a été écrit en 1967 par un ami à moi. Je l'ai connu plus âgé. Et donc l'ami à moi me dit, bah écoute, si ça t'intéresse, je te passe les documents que j'ai, à peu près une centaine de pages. Et cette centaine de pages, bah ça va pas loin. Donc, voilà, on commence par quelques pages, puis un petit peu de pages, puis on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Rien. J'ai passé 2 ans et demi et au final, j'ai ramassé 164 000 pages de documents. 164 000 pages de documents dans une douzaine de centres d'archives, nulle part, qui n'étaient pas classés en vrac. Et les profits illicites, ce qu'on appelle les profits illicites, donc les gens qui ont travaillé avec les Allemands, c'est 135 000 dossiers de 135 000 affaires et 135 000 personnes qui ne sont pas classés du tout. Et donc quand on rentre là-dedans, bah, on voit ce qu'on trouve et on trouve.
Donc vous avez rangé un peu alors, c'est bien.
Un peu.
Vous avez rangé la chambre, c'est bien.
Un petit peu.
Et le nom de Skolnikov qui apparaît comme ça
tout
au détour des dossiers.
Tout le temps, il y a des dossiers sur lui, etc. Il y a plein de choses. Mais c'est très compliqué, ça a pris un temps fou.
Quel type de document, juste pour comprendre, c'est quoi des rapports de police, c'est quoi,
non,
c'est...
D'abord, il y a la base, c'est effectivement l'enquête judiciaire de 1944-46, c'est-à-dire pendant ces 2 ans, si vous voulez, ce type... On doit d'abord l'inculper, comme on disait à l'époque. Ensuite, on doit trouver des témoins, des complices, donc les interroger, etc. Donc vous imaginez pas, il y a des magistrats, des flics, des agents des services de renseignement qui font un boulot d'enquête. Et ce boulot d'enquête, vous le retrouvez dans les documents, avec des interrogatoires, etc. Après, vous avez des rapports de toutes sortes. Et comme il y a 52 complices qui sont des sociétés ou des individus qui ensuite vont faire l'objet de ce fameux séquestre judiciaire après, vous avez 52 fois les mêmes dossiers. Avec 52 copies différentes,
des
avec 52
versions différentes.
Ah ouais, avec des types d'interrogatoires qui ne sont pas les mêmes, etc. Donc il faut retrouver chacun des 52
dossiers. Comment vous faites pour faire des choix, vous qui êtes historien ?
Ben dans un premier temps, vous n'en faites aucun, vous ramassez tout. Ouais. Et après, vous passez 2 ans à bosser.
Au tamis.
Exactement.
Il y a des témoignages de Skolnikov lui-même, des interrogatoires ?
Bien sûr que non, puisqu'il est mort. Mais en même temps, il n'est pas mort, mais peut-être qu'il est mort.
Ah, ça, on regarde pour la fin de l'interview.
Exactement.
Attention.
Non, en fait, il n'y a aucun interrogatoire, mais on y a des courriers. Il y a beaucoup de courriers. Et puis, j'ai eu la chance pour dire, c'est que, d'une part, la fille d'Emmanuel Martinez, donc la fille de Martinez de l'hôtel, est toujours vivante, donc elle raconte des choses sur son père, petit 1, et petit 2, la nièce de Skolnikov est toujours vivante, bien qu'elle soit plus vraiment en état aujourd'hui, mais elle l'était au moment où je
l'ai rencontrée. Vous l'avez rencontrée ?
Absolument, ouais. Elle avait 94 ans, et donc elle m'a raconté, pour le coup, son oncle.
Qu'est-ce qu'elle dit de son oncle ?
Bah, c'est un type formidable, c'est son père. Donc, il l'a entretenu, il lui a offert un immeuble, il a été génial avec elle, il était sympa.
Alors, vous avez un petit peu répondu à la question, mais elle est quand même importante, parce qu'il était juif ou pas, et comment, s'il était juif, il a pu commercer, faire ce business avec les Allemands à ce niveau de trafic, d'argent détourné, de responsabilité, d'une certaine façon.
Les Allemands se foutaient éperdument du judaïsme de leur complice, en quelque sorte. S'ils avaient, en fait... Comme je disais tout à l'heure, les Allemands ont donc mis en place un système. Dans ce système, ils avaient des spécialistes allemands, dont vous aviez des banquiers, des juristes, des tas de gens. Et puis, il y avait des intermédiaires qui étaient des intermédiaires complices spécialisés. Skolnikov est un très bon spécialiste du textile. On se fiche royalement de savoir s'il est juif ou pas, on s'en tape.
Vu qu'il rapporte de l'argent.
Voilà. Et en plus, je rappelle, il appartient à une secte religieuse issue donc du judaïsme. Les Allemands l'ont considéré comme non-juif, la secte, dès 1938. Donc à partir de là, il est blanc comme neige.
Pour les Français.
Bah pour les Français, ils savent même pas que ça existe. Donc ils l'arrêtent deux fois comme juif et les Allemands le sortent deux fois de prison comme non juif.
La police de Vichy l'arrête.
Ouais,
c'est ça.
Oui. Pour escroquerie, pour judaïsme, pour tout ce que vous voulez. Il a même un administrateur judiciaire comme juif. Enfin, c'est fascinant. Et ce sont les Allemands qui font le boulot.
Et en 1943, Michel Skolnikov est arrêté avec sa maîtresse, la fameuse Hélène Sanson, c'est ça.
Ouais.
Le service de la Gestapo chargé de la répression du marché noir.
Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une réorganisation, on va dire, en interne, dont le but n'est pas évidemment de supprimer le marché noir, mais de le réorganiser au profit d'autres services. Et donc, il se débarrasse officiellement, j'entends, du service auquel appartient Skolnikov. Et en vérité, à ce moment-là, il bascule exclusivement sur l'immobilier et l'hôtellerie. Puis, il organise sa fuite vers l'Espagne. Mais on s'aperçoit que son chef, qui est supposé être arrêté, devient son chef en Espagne.
Alors, il est tellement riche, Michel Skolnikov, il a acheté tellement d'immeubles qu'il fait flamber l'immobilier monégasque. Il le perturbe complètement.
Voilà, c'est-à-dire que les 5 sociétés holding qu'il crée à Monaco achètent aussi d'immobilier à Monaco. Il achète, ça se trouve que récemment, j'ai regardé sur le cadastre local, il achète à peu près 30 à 40% de l'immobilier local. C'est-à-dire qu'il possède la principauté. Et quand vous prenez simplement le type d'immeuble, en gros, il possède tout ce qui est chic. Et là-dedans, il y a en plus les hôtels. Et il se trouve que les derniers hôtels qu'il n'arrive pas à acheter, c'est tout simplement parce que ce qu'on appelle la société des bains de mer, c'est-à-dire la société qui possède les plus grands hôtels appartenant en partie au gouvernement, en partie à cette société privée, ils ont l'intelligence, si j'ose dire, de ne pas lui vendre, alors que c'était prévu, entre le débarquement en Normandie et le débarquement en Provence. Voilà. Là, ils ont une bonne idée, ils disent « tiens, finalement, on ne va pas lui vendre ».
Est-ce qu'il a, vous disiez, une cinquantaine de complices, etc., interrogés, jugés, concernés par le séquestre judiciaire à la libération? Ils servaient à quoi? Est-ce que c'était des prête-noms, par exemple? Comment ils fonctionnaient dans son business?
Alors, si vous voulez, vous avez un système assez bête, qui est le système donc, des holdings, qui est celui de base, qui à l'époque était en principauté, mais en fait, il y a d'autres États qui font ça. En substance, vous avez, c'est une sorte de fraude fiscale aussi, vous avez un personnage qui dit, voilà, je crée une société X. Le personnage apparaît chez le notaire, par parenthèse, c'est un seul notaire à Monaco qui va faire toutes les transactions pour les Allemands. Et donc ce notaire, on ne trouve rien à Monaco sur lui, puisque pour sauver sa peau, il a tout donné aux Français. Et donc on le trouve aux archives judiciaires aujourd'hui. Donc le notaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Monsieur Skolnikov, crée la société machin. Mmh. » Dedans, il y a des administrateurs qui sont des prête-noms. On appelle ça entre nous le panier d'aménagère. Donc il a des prête-noms comme ça qui sort. Il dit « voilà, il y a machin, il y a truc ». Alors par exemple, Skolnikov va prendre 10 000 actions. Et les autres, ils ont une action, 10 actions. Mmh. Ils sont rémunérés pour exister. Ensuite, il y a une assemblée générale, et ils disparaissent. Et ce sont les prête-noms qui deviennent administrateurs.
Bon, alors avec 2 milliards de francs, une telle fortune, j'imagine que Michel Skolnikov avait un train de vie absolument incroyable. Vous allez nous le raconter dans un instant. Est-ce qu'il faisait des jaloux aussi? Bah tiens, la réponse après les infos.
Et puis dans la seconde partie de l'émission, on vous racontera la vie sexuelle des plus grands écrivains français, de Victor Hugo à Colette, en passant par Maupassant, Madame de Lafayette ou Jean de La Fontaine.
Vous
verrez comment leur vie intime, et c'est ça qui est intéressant, a influencé leur œuvre.
RTL. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue à vous les curieuses et les curieux qui nous rejoignez sur RTL. C'est une super idée car on a encore une heure d'histoire incroyable, de destin hors normes et de secrets palpitants et même des secrets sexuels.
Des secrets d'alcôve, effectivement, on découvrira la vie sexuelle.
Ça,
ben oui, c'est joli. Des écrivains de Hugo l'insatiable à Colette qui aimait les hommes, les femmes. Et puis aussi Monsieur de La Fontaine, il était fugueur lui. Quand il y avait une jolie femme, il n'hésitait pas à partir, quelles que soient
dans
les conditions
neige,
météo, même sous la neige. En tout cas, c'est une autre vision de ces géants de la littérature qu'on vous propose.
Et tout de suite, on continue de vous raconter l'ascension d'un apatride qui va devenir le plus grand trafiquant de l'occupation et l'un des hommes les plus riches de France. Mais ça ne va pas durer.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Pour donner une idée, imaginons qu'en juin 1944 à Paris, la portion de chacun était de 1300 calories. Ce qui est le tiers de ce qu'il faut par jour.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors tout ça, ça a commencé en 1940. Les conventions d'armistice ont montré qu'elles étaient draconiennes puisque les Allemands prenaient tout, ils emportaient tout.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Et il a bien fallu que les Français réussissent à trouver des moyens, mais aussi en apprenant à faire des restrictions, des économies, à tout utiliser, recycler.
On est bien entre curieux sur RTL.
Le marché noir, c'était le quotidien de millions, de dizaines de millions de Français sous l'occupation. Et là, on vous raconte l'histoire d'un autre marché beaucoup plus lucratif. C'est un marché qui portait d'abord sur du textile et puis ensuite sur des biens de luxe, de l'hôtellerie notamment, des immeubles. Et c'est l'histoire de Michel Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation finalement que l'on vous raconte avec l'historien et journaliste Pierre Abramovici. J'allais dire l'homme qui valait 2 milliards de francs parce que c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, mais c'est presque plus que ça en fait.
Oui, c'est le double en comptant l'amende à la Libération. C'est plus cher. Et de toute façon, c'est ce qu'on a trouvé. Mais en vérité, en faisant des recherches maintenant, je me suis rendu compte que c'était encore beaucoup plus, mais qu'ils avaient oublié plein de sous.
Pour ceux qui nous rejoignent là maintenant, ils possèdent quoi à la fin de la guerre?
Alors, à la fin de la guerre, ils possèdent ce qu'on appelle le Triangle d'or à Paris. Ouais. Donc, c'est énorme. Vous imaginez même pas ce que ça représente. C'est des sommes colossales. Par curiosité, par exemple, l'immeuble Dior derrière, c'est lui.
D'accord.
Je sais pas, le marchand de chaussures Berluti, c'est lui.
C'était lui.
C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était 2 milliards de francs. Aujourd'hui, si on tout ce qu'il possède, si on le mettait en euros avec la valeur et si on revendait tout ce qu'il avait, c'est quoi? C'est plusieurs milliards d'euros, en fait.
Oui, probablement. Ouais. Ouais. C'est très difficile puisque, si vous voulez, le franc a changé, mais en vérité, c'est par rapport à la réalité du quotidien. Donc, il y a ça. Il possède quelques biens mineurs du genre du côté de l'avenue Victor Hugo, de ce genre de trucs. Enfin, ça sert pour Paris. Il possède, par exemple, c'est assez rigolo, un petit terrain de 80 hectares qui se trouve au bout de la promenade des Anglais. Devinez ce qu'il y a dessus aujourd'hui? L'aéroport. Donc, ce petit terrain est exproprié après la guerre. Ouais. Vous avez comme ça des endroits de ce genre, donc il y a plein de choses. Et puis, il possède donc une grande partie de la principauté de Monaco, qui est son centre juridique, c'est-à-dire que les holdings et donc une partie de la principauté là. Et il apparaîtrait apparemment à la Libération qu'en fait, il est à la fois en Espagne en fuite, à cause de son arrestation de 43 et l'idée que les carottes commencent à être un peu cuites, et de l'autre côté, avec l'idée qu'il va tout de même s'y installer, pays neutre, après-guerre, pour continuer à vivre de ses biens.
Alors, racontons pas tout de suite l'immédiate après-guerre. Je voudrais comprendre son train de vie. C'est quoi Skolnikov dans les peut-être deux dernières années ou dernières années de la guerre? C'est un train de vie hyper fastueux, comme on l'imagine?
Alors, il est hyper fastueux, tout ce que je vous l'ai dit, discret au sens où il se montre pas. Mais quand vous regardez le volume des achats à Skolnikov, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il achète une Rolls-Royce. Alors, c'est très compliqué, il voudrait la faire venir d'Angleterre. Enfin, c'est pas possible. Donc, il l'achète à quelqu'un. Il la paye cher. Quelle importance? De toute façon, l'argent n'est pas à lui, on s'en fout. Donc, il y a ce genre de choses. Il a un château, il a un appartement qui est meublé somptueusement, il a des bijoux en quantité considérable.
Alors, il a le choix en termes d'immobilier, évidemment. Il habite où? Il choisit
quoi dans un très bel immeuble qui se trouve à la place de l'Étoile, rue de Presbourg, avec un très petit appartement de quelques centaines de mètres carrés, enfin trois fois rien.
Avec des domestiques?
Bien sûr.
Il paraît que c'est la meilleure table de Paris à l'époque.
Alors c'est ce qu'on dit dans la légende. En vérité, comme effectivement il reçoit en douce, en fait on ne sait pas trop. En fait, on voit simplement dans les factures qu'il ne se refuse rien.
Mais c'est plutôt un mondain. Et il vit toujours avec, il est toujours avec sa maîtresse, Hélène Sanson, qui lui a permis de trafiquer, qui l'a mis en contact avec les SS.
À la différence de La Fontaine, lui, il est fidèle en amour et donc il est toujours avec Hélène Sanson. Il va le rester. Et donc effectivement, le train de vie est surtout celui d'Hélène. En fait, c'est elle qui dépense. Elle dépense de manière inouïe.
C'est-à-dire, c'est des
robes.
On a retrouvé des robes de fourrure, robes de fourrure, pardon, des manteaux de fourrure dans plusieurs boutiques parisiennes célèbres.
Oui, absolument. On a saisi des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs insensés qui ont été vendus après la guerre dans le cadre des ventes qui ont été faites ensuite.
Pierre Abramovici, vous racontez cette histoire dans ce livre Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, publié aux éditions Nouveau Monde. Qu'est-ce qui se passe quand le vent tourne, quand les Allemands s'apprête à perdre la guerre, on va dire ça comme ça? Il sent le vent tourner, donc qu'est-ce qu'il essaye de faire?
D'abord, il part en Espagne. Je vous ai dit, je pense, et on pense, d'après les documents, qu'en fait, il part commandé par les Allemands pour installer un réseau d'évasion de l'argent spolié en Europe vers les pays neutres, puisque son chef SS vient avec lui, bien qu'il fût soi-disant arrêté en 43. Skolnikov disparaît complètement des archives espagnoles dans la mesure où ils ont refusé tout simplement de me les ouvrir. Donc je ne sais pas ce qu'il fait entre 44 et 45. Et puis les Espagnols ont accepté de me donner 1000 pages de documents qui couvrent une semaine de sa vie, c'est-à-dire de la dernière semaine de son existence, si l'on en croit les Espagnols. Parce que tout le problème qui se pose, et qui se pose encore aujourd'hui, c'est Skolnikov est-il mort?
Alors la version officielle dit quoi?
La version officielle dit qu'il est vivant. Jusqu'en 1966, il est vivant. Pourquoi il est vivant? Parce qu'on ne peut pas condamner un mort. Or, les services de renseignement savent qu'il est mort, puisque ce sont eux qui l'ont tué, selon la version officieuse. Les Espagnols savent aussi qu'il est mort, puisque les Espagnols le disent aux Français. Donc, les Français mentent pendant 15 ans en disant « il est complètement vivant, on l'a condamné, il doit payer ».
Alors, il y a quand même cette version donc, qui est officieuse de la France qui envoie un groupe d'épuration en Espagne pour le chercher. Il se fait choper, il se fait frapper, c'est quand même assez précis, c'est ça ? Il prend un coup. Ensuite ?
Bah, normalement, vous avez la version numéro 1, il meurt du coup.
Il meurt et le corps est brûlé.
Voilà. La version numéro 2, il meurt pas, il est empoisonné par le même commando. La version numéro 3, on ne sait pas pourquoi, mais il meurt. Bref, il y a mille raisons. Là où il y a un truc un peu bizarre, c'est que le corps est reconnu par son frère. Et en fait, il y a un truc extrêmement étrange. Le frère reconnaît le corps, mais le corps est méconnaissable. Donc, il reconnaît le corps, très bien. Sur la base d'un bijou. Alors, il dit, voilà, c'est à lui. Donc, je sais que c'est lui. Bon. Les services secrets français, à ma demande, ont refusé d'ouvrir les documents. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, quand le bouquin est sorti, quelques temps après, ils ont accepté de me les ouvrir. Et donc, le truc, c'est que j'ai maintenant la version des Français. Alors, les Français ont effectivement assassiné Skolnikov, si on en croit les documents des services de renseignement. Je remercie au passage la DGSE qui a eu un petit retard. Et donc, le personnage meurt vraiment tué parce que les témoins assassins témoignent auprès de leur chef en disant « on l'a tué ». Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils ont tué la bonne personne. Donc, on a menti en disant qu'il est vivant, mais en fait, il est mort. Et si ça se trouve, ils n'ont pas tué Skolnikov, mais son frère.
Et c'est peut-être pour ça que vous allez sortir un volume 2, c'est ça ?
Exactement.
Il y a encore beaucoup de choses à raconter. D'un mot, le temps a filé, ça revient dans l'actualité. On a démarré par ça, on va boucler par ça, avec un procès autour de l'hôtel Martinez, parce qu'on continue de réclamer aux héritiers de Martinez l'argent de Skolnikov, c'est ça ? Alors Exactement. Que vous nous dites, il n'a jamais acheté cet hôtel.
Ah oui, les documents sont précis, clairs. Non, simplement les Skolnikov ont été sortis à la longue, les Martinez pas. Et donc les Martinez se retrouvent à avoir payé à eux tout seuls 77% du séquestre Skolnikov. Et ils disent, mais pourquoi on doit payer ? Et on réclame à la fille d'Emmanuel Martinez qui a 94 ans, on lui réclame, je crois, 250 ou 300 000 euros supplémentaires chaque année et elle touche 800 euros par mois. Donc il y a un procès pour, un, que ça s'arrête, et deux, qu'elle rentre dans son hôtel, enfin tout au moins qu'elle récupère l'hôtel de son père. Mmh. Et cette procédure est en cours, donc le dernier procès est à venir. Il y en aura encore un autre après, enfin on est au printemps, puis en automne, etc.
Merci infiniment, c'était passionnant Pierre Abramovici. Je rappelle que vous publiez Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation aux éditions du Nouveau Monde, et puis une suite bientôt au micro de la curiosité, bien sûr.
Merci Pierre.
Vous écoutez RTL.